sur Radio Libertaire, en direct, 89.4 FM, la voix de la Fédération anarchiste.
Bonjour à toutes et à tous, c'est le Ferry Club, quatrième et dernière partie de l'entretien avec Patrick Ullmann aujourd'hui.
La Radio Libertaire, 89.5.
Oui.
Écoute. Dans le silence de la mer, il y a comme un balancement maudit qui vous met le cœur à l'heure, comme le sable. Se remontent un peu comme les vieilles putes qui remontent leur peau, qui tirent la couverture. L'immobilité, ça dérange le siècle. C'est un peu le sourire de la vitesse, ça sourit pas l'herche, la vitesse en ces temps. Les amants de la mer s'en vont en Bretagne ou à Tahiti, c'est vraiment con les amants. Il n'y a plus rien. Camarades maudits, camarades misères. Misère, c'était le nom de ma chienne qui n'avait que trois pattes. L'autre, le destin, le l'avait mise de côté pour les Olympiades de la bouffe et des culs semestriels qu'elle accrochait dans les buissons pour y aller de sa progéniture. Elle est partie, misère, dans des chaos quelque part, dans la nuit des chiens. Camarade tranquille, camarade prospère, quand tu rentreras chez toi, pourquoi chez toi? Quand tu rentreras dans ta boîte, rue d'Alésia, du Faubourg, si tu trouves quelqu'un dans ton lit, si tu y trouves quelqu'un qui dort, alors va-t'en dans le matin éclairé, seul, te marie pas. Si c'est ta femme qui est là, réveille-la de sa mort imagée, tu pourras lui dire, dis, t'as pas honte de t'assumer comme ça dans ta liquide sénescence, dis, t'as pas honte, alors qu'il y a 90 000 espèces de fleurs, espèces de connes, et barre-toi, divorce, cela, te marie pas, sinon t'es coincé. Tu peux tout faire. T'empaqueter dans le désordre, pour l'honneur, pour la conservation du titre. Le désordre, c'est l'ordre, moins le pouvoir. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Je suis un nègre blanc qui mange du cirage. Parce qu'il se fait chier à être blanc, ce nègre. Il en a marre qu'on lui dise sale blanc. À Marseille, la sardine qui bouche le porc était bourrée d'héroïne. Et les hommes grenouilles n'en sont pas revenus. Libérez les sardines. Et il n'y aura plus de marailleurs. Si tu savais ce que je sais, on te montrerait du doigt dans la rue. Alors, il vaut mieux que tu ne saches rien comme ça. Au moins, t'es peinard, anonyme, citoyen. Tu as droit, citoyen, au minimum décent. À la publicité des enzymes et du reste, au trafic des lards et trafiquants d'armes qui traînent les journaux dans la boue et le sang. Tu as droit à ce bruit de la mer qui descend. Et si tu veux la prendre, elle te fera du charme avec le vent au cul et des sextants d'alarme. Et la mer reviendra sans toi si tu es méchant. Les mots, toujours les mots, bien sûr. Citoyen aux armes, pépé citoyen. À l'amour, citoyen, nous entrerons dans la carrière quand nous aurons cassé la gueule à nos aînés. Les préfectures sont des monuments en airain. Un coup d'aile d'oiseau ne les entend même pas se vous dire. Nous sommes même plus des juifs allemands, nous sommes plus rien. Il n'y a plus rien. Des fétales bien coupées sur lesquelles lorgnent les gosses, certes. Des poitrines occupées, des ventres vacants, arrange-toi avec ça. Le sourire de ceux qui font chauffer leur gamelle sur les plages reconverties et démoustiquées, c'est-à-dire un enfer, là où Dieu met ses lunettes noires pour ne pas risquer d'être reconnu par ses admirateurs. Dieu est une idole aussi. Sous les pavés, il n'y a plus la plage, il y a l'enfer et la sécurité. Notre vraie vie n'est pas ailleurs, elle est ici. Nous sommes au monde, on nous l'a assez dit. Les mots. Nous en mettons des masques, un baillon sur la tronche, à l'encyclopédie, les mots, et nous patrons avec nos cris, et voilà, il n'y a plus rien, plus rien. Je suis un chien, props. Je suis un rat, rien, avec le cœur battant jusqu'à la dernière battue. Avec le cœur battant jusqu'à la dernière battue. Qu'est-ce qu'il y a après ? Nous arrivons avec nos accessoires pour faire le ménage dans la tête des gens. Apprends donc à te coucher tout nu. Fous en l'air tes pantoufles. Renverse tes chaises, mange debout. Assois-toi sur des tonnes d'inconvénients et montre-toi à la fenêtre en gueulant des gueulantes de principe. Si jamais tu t'aperçois que ta révolte s'encroûte et devient une habituelle révolte, alors marche, crève, baise. Aime enfin les arbres et les bêtes. Et détourne-toi du conforme et de l'inconforme. Lâche les notions, si ce sont des notions. Rien ne vaut la peine de rien. Il n'y a plus rien. Invente des formules de nuit. CLN, c'est la nuit. Surtout au soleil, même au soleil. Et surtout au soleil, c'est la nuit. Tu peux crever. Les gens ne retiendront même pas une de leurs inspirations. Ils canaliseront sur toi leur air vicié en des regrets éternels, puant le certificat d'études et le catéchisme ombilical et te tairont les gens. Les gens, tes autres toujours, regardent à table quand ils mangent. Ils s'engouffrent dans l'innommé, ils se dépassent eux-mêmes et s'en vont vers l'ordure et l'euro ponctuel. La ponctuation de l'absurde, c'est bien ce renversement des réacteurs abdominaux comme à l'atterrissage. On rote et on arrête le massacre. Sur les pistes de l'inconscient, il y a des balises baveuses, toujours un peu se souvenant du frishti, de l'organe, du repu. Nos plus beaux souvenirs sont d'une autre planète, où les bouchers vendaient de l'homme à la criée. Moi, je suis de la race ferroviaire qui regarde passer les vaches. Si on ne mangeait pas les vaches, les moutons et les restes, nous ne connaîtrions ni les vaches, ni les moutons, ni les restes. Au bout du compte, on nous élève pour nous becter. Alors, becton, côte à l'os pour deux personnes que tu connais. Heureusement, il y a le lit, un parking. Et puis, c'est comme à la roulette. On mise. Si la roulette n'avait qu'un trou, on nous ferait miser quand même. Je comprends les joueurs. Ils ont 35 chances de ne pas se faire mettre. Ils mettent. Le drame dans le couple, c'est qu'on est deux. Et qu'il n'y a qu'un trou dans la roulette. Quand je vois un couple dans la rue, je change de trottoir. Te marie pas, ne vote pas. Sinon t'es coincé, elle était belle comme la révolte. Nous l'avions dans les yeux, dans nos bras, dans nos futales. Elle s'appelait l'imagination. Elle dormait comme une morte, elle était comme morte. On l'enterra de mémoire. Dans le cocktail Molotov, il faut mettre du martini, mon petit. Transvahutez vos idées comme de la drogue. Tu risques rien à la frontière. Rien dans les mains, rien dans les poches, tout dans la tronche. Vous n'avez rien à déclarer? Non. Comment vous nommez-vous? Karl Marx. Allez, passez. Nous partîmes. Nous étions une poignée. Bientôt, nous nous trouverons démunis, seuls, avec nos projets d'imagination dans le passé. Nous partîmes, nous étions une poignée. Bientôt, ça débordera sur les trottoirs. La parlotte, ça n'est pas un détonateur suffisant. Le silence armé, c'est bien, mais il faut bien fermer sa gueule. Écoutez-les, toutes des concierges. Il n'y a plus rien, plus rien. Si les morts se levaient, hein? Nous étions combien?
Ça ira.
La tristesse, toujours la tristesse. Ils chantaient dans les rues. Ceux de San Francisco, de Paris, de Milan et ceux de Mexico. Bras dessus, bras dessous, bien accrochés au rêve. Ne vote pas haut, des C8, des pélicans, cigognes qui partent à l'heure. Labrador, lèvres des bisons, j'invente en bas des rênes bleues. Un habit rouge du couchant, je vais à l'ouest de ma mémoire, vers la clarté. Je m'éclaire la nuit dans le noir de mes nerfs. Dans l'or de mes cheveux, j'ai mis 100 000 watts, des circuits sont en panne. Dans le fond de ma viande, j'imagine le téléphone dans une lande, celle où nous nous voyons, moi et moi, dans cette brume obscène au crépuscule teint. Je ne suis qu'un voyant embarrassé de signes. Mes circuits déconnectent, je ne suis qu'un binaire, mon fils. Il faut lever le camp comme lève la patte, lève-toi, il est tôt. Prends du vin pour la route, dégaine-toi du rêve anxieux des bien assis. Roule, roule, mon fils, vers l'étoile idéale. Tu te rencontreras, tu te reconnaîtras. Ton dessin devant toi, tu rentreras dedans. La mue, ça se fait à l'envers, dans ce monde inventif. Tu reprendras tes yeux de fille et rentreras dedans. Regarde tes yeux en dedans de toi. Quand tu auras outrepassé ta vision, alors tu verras rien. Il n'y a plus rien que les pères et les mères, que ceux qui t'ont fait, que ceux qui ont fait tous les autres, que les messieurs, que les madames, que les assis dans le velours glacé soumis mollasse, que ces horribles magasins roulants qui portent tout en devanture, tous ceux à qui tu pourras dire « Monsieur, Madame, laissez donc ces gens-là tranquilles, ces courbettes imaginées que vous leur inventez, ces désespoirs soumis, toute cette tristesse qui se lève le matin à heure fixe pour aller gagner vos sous, avec les poumons resserrés, les mains grandies par l'outrage et les bonnes mœurs, les yeux défaits par la veille soucieuse, et vous comptez vos sous, pardon, leurs sous, ceux qui vous déshonorent sur la propreté administrative, écologique, dont vous tirez orgueil dans vos salles de bain climatisées, dans vos bidets déserts, en vos miroirs menteurs, vous faites mentir les miroirs. Vous êtes puissant au point de vous regarder tel que vous êtes, encravaté, envisonné, empapaouté de morgue et d'ennui dans l'eau verte qui descend des montagnes et que vous êtes arrangé pour soumettre à un point donné et à heure fixe pour vos narcissiques partout. Vous vous regardez et vous ne pouvez même plus vous reconnaître tellement vous êtes beau. Et vous comptez vos sous en long, en large, en marge de ces salaires que vous lâchez avec précision, avec parcimonie, j'allais dire en douce, comme ces aquilons avant-coureurs et qui racontent les exploits du bol alimentaire avec cet appareil vengeur et nivellateur qui empêche toute identification. Je veux dire que pour exploiter votre prochain, vous êtes les champions de l'anonymat. Les révolutions, parlons-en. Je veux parler des révolutions qu'on peut encore montrer parce qu'elles vous servent. Parce qu'elles vous ont toujours servi. Ces révolutions qui sont de l'histoire, parce que les histoires, ça vous amuse avant de vous intéresser. Et quand ça vous intéresse, on vous dit qu'il est trop tard, qu'ils en préparent une autre. Lorsque quelque chose d'inédit vous choque et vous gêne, vous arrangez la veille, toujours la veille, pour retenir une place dans un palace d'exilés, dans un pays sûr, entouré du prestige des déracinés. Les racines profondes de ce pays, c'est vous, paraît-il. Et quand on transbahute d'un désordre de la rue, comme vous dites, à un ordre nouveau, comme ils disent, vous vous faites greffer au retour et on vous salue. Depuis 200 ans, vous prenez des billets pour les révolutions. Vous seriez même tenté d'y apporter votre petit panier pour n'en pas perdre une miette, n'est-ce pas? Et ces vauriens qui vous amusent, ces vauriens qui vous dérangent aussi, on les enveloppe dans un fait divers. Pendant que vous enveloppez les vôtres dans un drapeau, vous vous croyez toujours, vous autres, dans un haras, ça vous tient debout dans ce monde que vous avez assis. Vous avez le style du pouvoir. Vous vous parlez à vous-même comme si vous parliez à vos subordonnés, de peur de quitter votre stature, de peur qu'on vous montre du doigt dans les corridors de l'ennui et qu'on se dise, tiens, il baisse, il va finir par se plier, par ramper, soyez tranquille. Pour la reptation, vous êtes imbattable. Seulement, vous ne vous la concédez qu'avec la métaphore. Vous voulez bien vous allonger, mais avec de l'allure, cette allure que vous portez, monsieur, à votre boutonnière. Et quand on sait ce qu'a pu vous coûter de silence aigre, de renvoi mal aiguillé, de demi-sourire séché comme des larmes sur ruban malheureux et rouge, comme la honte dont vous ne vous êtes jamais décidé à empourprer votre visage, je me demande pourquoi et comment la nature met tant d'entêtement, tant d'adresse et tant d'indifférence biologique à faire que vos fils ressemblent à ce point à leur père, depuis les jupes de vos femmes matrimonières jusqu'au salonnard des équivoques où vous les dressez à boire dans votre grand monde à la coupe des bien-pensants. Moi, je suis un bâtard. Nous sommes tous des bâtards. Ce qui nous sépare aujourd'hui, c'est que votre bâtardise à vous est sanctionnée par le code civil, sur lequel, avec votre permission, je me plais à cracher avant de prendre congé. Soyez tranquille, vous ne risquez rien, il n'y a plus rien. Et ce rien, on vous le laisse. Foutez-vous-en jusque-là si vous pouvez. Nous, on ne peut pas. Un jour, et bientôt, nous aurons tout. Rien de vous, tout de nous. Nous aurons eu le temps d'inventer la vie, la beauté, la jeunesse, les larmes qui brilleront comme des émeraudes dans les yeux des filles. Le sourire des bêtes enfin détraqué, la priorité à gauche, permettez. Nous ne mourrons plus de rien, nous vivrons de tout. Et les microbes de la connerie, que vous n'aurez pas manqué de nous laisser montant dans vos fumures, de vos livres engrangés dans vos stylothèques, de vos documents publics, de vos règlements d'administration pénitentiaire, tous ces microbes juridiques aux pantoufles. Soyez tranquilles, nous avons déjà des machines pour les révoquer. Nous aurons tout demain matin.
Également la pochette d'Il n'y a plus rien.
Voilà, alors la pochette d'Il n'y a plus. La pochette d'Il n'y a plus. On en a déjà parlé longuement la première fois, je crois.
Mais c'était important de le réévoquer.
La pochette
d'Il n'y
a plus rien, c'est vraiment enregistré pendant qu'il chante, il n'y a plus rien.
Ouais.
C'est à l'Olympia, le soir de la générale de gala. Oui, mais je sais pas ce qui me prenait. Hein. Je me prenais, moi, pour le Beethoven de la photo. Écoute, c'est un peu grandiloquent, ça, quand même.
Oui, et dans l'album Il n'y a plus rien, il y a une image également qui est dans des couleurs violettes. Bordeaux, non? Rouge.
Lit-vin et orangé.
Vin, ouais. et des yeux.
Les yeux de Léo dans le ciel.
Qui c'est sourde du ciel. Ouais.
C'est les yeux de Léo. Hein.
C'est
les yeux de Léo. Ouais, ouais.
D'accord.
Ouais. Mais je trouve que ça. Voilà, il n'y a plus rien, moi, ça m'a donné cette image-là, quoi. De fin du monde. Ouais, c'est la fin du monde quand même,
ouais.
Un peu, non?
Ouais, tout à fait.
Quand la météorite est tombée sur Terre, ça devait être un peu comme ça, quoi. Et elle a été classée comme une des trois plus belles pochettes de disques françaises.
Ah ouais.
C'est Rock and Folk avait fait un sondage il y a quelques années. Et j'avais été très touché de
bah,
ça quand même.
J'imagine
C'était
bien,
pas
ouais.
mal.
Ouais, j'imagine bien.
Après, Léo s'est fâché. Parce que Léo et moi, on s'est engueulés. C'est arrivé.
Pas au sujet de la...
Ah, pas du tout.
Non, d'accord.
On avait des engueulades de temps en temps, puisque... Comme tu constates, je dis un peu les choses comme elles me viennent, quoi, en vrac. Et plusieurs fois, je lui ai dit des choses qui ne lui ont pas plu du tout. Bon. Mais quelques temps après, Léo me disait, finalement, t'es le seul à me dire la vérité. Et quand on se promenait à Castellina, il me disait, c'est avec toi que je préférerais être ici, parce qu'on parle vraiment. Tu vois, c'est quand même pas mal. Quitte après, on se taire complètement, puisqu'on a rompu définitivement.
Mais au moins, il y avait de la vérité dans vos échanges, quoi.
Oui, toujours. Moi, j'ai toujours dit à Léo ce que je pensais. On a eu des anecdotes, encore des anecdotes très drôles, mais les plus beaux moments de ma vie, ouais, je peux encore dire ça aujourd'hui, c'est les longues nuits à Castellina, où tout le monde était couché, il n'y avait plus que Léo et moi, dans le salon en bas, près de la cheminée. C'est des moments... mais on n'avait même pas besoin de se parler. Être dans la même pièce, ça suffisait à faire... C'est un truc que j'ai jamais ressenti avec personne, ça. Un truc aussi fort. Mais au milieu de ça, on pouvait avoir des engueulades. Et Léo était très, très susceptible, d'abord. Et puis, il avait une connaissance phénoménale de la musique. C'est vrai qu'aussi, il connaissait la musique. Et quand il détruit et qu'il déteste la musique dodécaphonique, c'est pas un truc de mec sénile qui peut pas entendre de la musique contemporaine. C'est un truc réfléchi, il argumente, et il sait pourquoi il ne l'aime pas, et il le dit. Donc la musique, il connaît par cœur. Et il a, dans son panthéon musical, Mozart, Beethoven, en même temps, c'est des maudits, quand même. Oui. C'est très important, ça. Et Bartok, qui mort de faim à New York.
Il a fallu quêter pour enterrer Béla Bartok.
Voilà. Et Béla Bartok est mort de faim à New York. Fin de piano. Et un jour à Castellina, où il devait être un concert de nuit, il n'y avait plus que lui et moi. Et à la télévision, un chef d'orchestre. Alors, on n'avait pas lu le générique. Un chef d'orchestre dirige un truc. Et Léo me regarde et il me fait qu'est-ce que c'est chiant. Une œuvre symphonique assez grandiose, quoi. Et puis Léo continue. Mais c'est vraiment emmerdant. Puis moi j'écoute. J'ai pas la culture de Léo, mais je connais quand même un peu la musique. Et je dis à Léo, mais c'est du Bartok, Léo. Non, c'est pas possible, c'est pas du Bartok. Il peut pas avoir fait une merde comme ça. Bon. Et puis à la fin du morceau, je ne sais pas quel concerto, de Béla Bartok. Tu ne peux pas savoir comme j'étais heureux quand même. Je me prenais, moi, une valeur en face de Léo.
Ouais, bien sûr.
On était sur le même terrain, quoi. Mmh. Et Léo, qui est l'homme la plus mauvaise foi que j'ai jamais pu en vivre, me regarde et me fait « D'accord, c'est Bartok, t'as raison, mais alors c'est Bartok, jeune
!» Oui, histoire de retomber sur ses pattes.
Voilà, c'est Béla Bartok, jeune, tu vois. Ouais. C'était, et il y a eu plein de moments comme ça. Mais Léo, avec un truc comme ça, il pouvait se fâcher vraiment, quoi. Ouais. Et te faire la gueule longtemps. On a eu ça quelques fois, avec des ruptures un peu longues.
Je suis arrivé à 8h15 J'ai grillé une sèche en lisant le courrier. Dans cette loge d'artistes où s'arrête la gloire, le temps de se refaire une petite beauté. Regarde-moi bien, je suis une idole. J'ai passé mes joues au fil du rasoir. Quand on vend sa gueule sous des projecteurs, on peut pas se permettre d'avoir les cheveux noirs et une barbe toute blanche, même pour trois quarts d'heure. J'ai mis mes souliers tantôt bottillon, tantôt mocassin, ça dépend des fois. Et quant à marcher entre deux chansons, j'irai bien pieds nus seulement, ça se fait pas. Regarde-moi bien, je suis une idole. Si j'ai fait mes yeux, c'est pour agrandir les deux petits quinquets que maman m'a donnés. Je les voudrais bien verts, d'ailleurs je le fais dire, mais ils sont châtains en réalité. J'ai mis mon costume sorti du pressing, ce vestiaire anglais où on lave même le spleen. Un chanteur qui chante la révolution, sa planque, sa cravate, sa mêle, col d'anton. Regarde-moi bien, je suis une idole. J'ai bronzé ma gueule d'un vieux fond de soleil qu'on me refile en tube chez mon parfumeur. Et quand je fous mes côtes sous l'arc des merveilles, on voit des canaux qu'on prend pour des pleurs. Quand tout est fini, le rideau baissé, et que j'entends mourir la rumeur complice, et qu'il n'y a plus rien qu'un silence armé par tant de passants sous tant de coulisses. Regarde-moi bien, je suis une idole. Et je retrouve mon corps, celui que je rencontre les matins civils quand je me prends pour moi, celui que l'on voit, celui que l'on montre à je ne sais plus qui, pour je ne sais plus quoi. Et je m'en vais souper, traqué dans un coin, avec mes copains, sur mon addition, en rasant les tables, en me cachant des mains, en disant tout bas la fin de ma chanson. Regardez-moi bien, je suis qu'un artiste.
Lorsqu'on a évoqué votre brouille avec Léo en juin, lorsque nous étions rencontrés la première fois, tu avais parlé, on n'avait pas vraiment évoqué, et tu as bien voulu qu'on en reparle aujourd'hui, donc on va en parler un petit peu, même si on l'a déjà fait quand même un tout petit peu. Tu avais dit que c'était essentiellement une, je te cite, une connerie de non-dit de l'un à l'autre.
Oui. Oui, oui. On est vraiment co-responsable à 50-50, quoi. C'est... Je te résume l'effet matériel pour comprendre l'histoire. Pendant le Palais des Congrès, donc Léo habite chez Pia Colombo et son compagnon. Ça dure un mois à peu près. Il y a là Léo, Mathieu, et puis au moment des concerts, Marie est venue aussi. Donc. Et on se voit beaucoup chez Pia Colombo. C'est un point de... En dehors des concerts, on se voit chez Pia. Parce que c'est là que Léo se réveille, que Mathieu se réveille. Donc voilà, on est là-dedans. Et un jour, Léo me dit « Mais je n'ai jamais vu ton studio à l'Olympia. J'aimerais venir. » Il vient, il visite. Et moi, j'avais commencé un travail de photo sur la Bretagne. Des photos de vagues, de dunes, de tout ce que tu veux, avant que ça devienne le livre, hein. Pour le plaisir, des photos comme ça. Léo regarde ça et me dit, c'est extraordinaire, on dirait des illustrations pour la mémoire et la mer. Moi, je n'y avais pas pensé. Il y avait, entre autres, une photo d'un chien suspendu en l'air, au-dessus des vagues. Il y a une plage longue et au milieu de la photo, suspendue en l'air, il y a un épagneul qui court. Et je dis à Léo, oui, le chien de mer. Et Léo me dit, mais non, tu déconnes, un chien de mer, c'est un poisson. Je ne savais pas que c'était un poisson, le chien de mer. Et je dis, moi, non, autrement, à part ça, je ne vois pas pourquoi. Il me dit, non, non, C'est pas d'après ma chanson. Parce que La mémoire et la mer, c'est une petite chanson extraite d'un long texte qui s'appelle Guesclin, les chants de la fureur. Que tu n'as pas lu, que peu de gens ont lu. Donc c'est une rencontre hasardeuse et bienheureuse, ton texte et les images. Donc si tu as l'occasion, si tu peux faire un livre avec, je te donne le texte. Ça peut aider à éditer, les images sont magnifiques, et ça peut aider à éditer, donc voilà. Bon, merci Léo, c'est formidable, j'y penserai, mais sans plus que ça. 8 jours après, Léo, alors le Palais des Congrès commence, et Léo me dit, voilà, chez Pia, avant-hier soir, j'ai rencontré un type, un imprimeur, il est très sympathique, et je lui ai parlé de cette idée de livre, alors. Je ne vais pas penser limiter.
Ouais, c'était pas mal, on l'a reconnu quand même.
Je ferais bien qu'on se rencontre, vous vous rencontriez, et puis je te donne le texte, et puis s'il peut le faire, tu fais le livre avec lui. Donc je rencontre ce garçon qui s'appelle Henri Berger. Injure personnelle. Le dernier des enfoirés. Ce mec. On rencontre le garçon en question, chez Pia. Et Léo était très fort en imprimerie. Léo imprimait lui-même. Et donc ils ont sympathisé, techniquement parlant, sur la façon d'imprimer.
Il y avait une connivence.
Il y avait une connivence. Ouais. Léo me dit, ben, vous avec lui, rencontrez-vous, parlez-en. Ce serait pas mal si vous pouviez faire ce livre ensemble. Et Léo me dit, pour le texte, t'inquiète pas, je te le donne, il est à toi. Si tu veux faire avec quelqu'un d'autre, tu fais avec quelqu'un d'autre. Mais tu peux faire avec lui, si c'est bien, pas de problème. Et je vois le mec en question, qui me semble plutôt fiable, gentil de surcroît, un peu hystérique, mais plutôt sympathique. Il regarde mes photos, qui étaient des photos un peu comme Il n'y a plus rien ou comme Basta, des couleurs rajoutées. C'est des photos noires et blancs auxquelles je mets de la couleur ensuite. Donc des couleurs qui n'ont rien à voir avec la réalité et qui demandent un travail très pointu de photogravure et d'impression. C'est très complexe et on ne peut pas faire ça avec une quadrichromie comme on ferait d'habitude. C'est plus compliqué que ça. Enfin, Henri Berger, donc, saute sur l'occasion, il me dit « J'ai jamais édité de livre, je ne suis qu'imprimeur, mais je rêvais de faire une maison d'édition. C'est le projet idéal pour démarrer une maison. » Voilà, Henri Berger, édition. On signe un contrat, La mémoire et la mer, texte de Léo Ferré, image Patrick Hulman, édition Henri Berger. Donc, je finis mon travail d'image. Parce qu'il n'y avait pas un livre construit. J'avais commencé à faire un certain nombre de photos. Je continue. Une œuvre. Un certain nombre de fois, je montre des photos à Léo. Et chaque fois, il me dit, c'est magnifique, c'est formidable. Puis Léo, il avait la larme assez facile. Dès qu'il était touché, il pleurait un peu. Donc, plusieurs photos où il pleure. C'est magnifique, c'est formidable. Et on... Ben moi, je finis mon boulot propre. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Ah oui, Henri Berger décide, parce qu'il n'a pas de fric, pour faire ce bouquin, de lancer une souscription. Alors, je ne sais plus par quel média il est passé, en tout cas, il lance une souscription. Et un certain nombre de gens souscrivent au livre La mémoire et la mer. Henri Berger me dit, on n'a pas... Parce que, oui, finalement, Henri me dit, je ne suis pas à la hauteur ni équipé pour imprimer un projet pareil. Il faut qu'on trouve un imprimeur avec plus de surface et un photograveur qui connaît bien son métier parce que tes photos sont difficiles. Alors finalement, il m'a dit, voilà, j'ai trouvé le photograveur et l'imprimeur. C'est en Suisse, à Bienne. C'est le plus grand imprimeur de Suisse, qui avait la réputation d'être les meilleurs imprimeurs du monde. Donc, on va chez eux pour le travail. Je prends mes photos sous le bras, et lui et moi, on va en Suisse, et on rencontre un monsieur formidable qui lance la photogravure des images. Je vais deux ou trois fois en Suisse pour suivre les travaux de photogravure. Et on me donne des épreuves de photogravure qui ne sont pas encore imprimées, qui sont là. Ce que ça donnera quand ce sera imprimé. Avec une petite perte entre la photogravure et l'impression, il y a toujours une petite perte. Henri Berger me dit, pour les souscripteurs, j'ai décidé qu'on allait faire un portfolio avec trois grandes photos tirées sur vélin d'arche et dédicacées par Léo et par toi. Enfin, ouais, pourquoi pas. Il imprime son portfolio avant même que le reste soit fait. Et se trouve qu'au niveau des couleurs, c'est pas vraiment ça. Mais ça, le portfolio, il l'a pas fait faire en Suisse. Il l'a fait faire par un imprimeur en France. D'accord. Et c'est un peu médiocre. Bon. Je dis à Henri, j'espère que le livre, ce sera mieux, parce que ça va pas. On demande à Léo le texte, pour commencer à composer le texte de La mémoire et la mer. Enfin, qu'il nous a dit qu'il nous le donne, mais on n'a pas de texte. Donc Léo me demande de venir à Castellina pour chercher le texte, et qu'il a beaucoup réfléchi, et que dans ce texte, un certain nombre de choses doivent être changées. Qu'il a donc du travail. Mais que ce serait bien si j'étais là avec lui au moment où on allait faire ce travail. Je vais donc à Castellina, et on a passé, mais c'était formidable, deux ou trois nuits, où Léo a travaillé à modifier le texte. Parce que Léo était comme ça, et moi, ça faisait partie des choses qui me gênaient chez Léo. Là aussi, frangeux, quoi.
Oui, mais...
C'est-à-dire que tout ce qui se rattachait, de près ou de loin, à Madeleine, devait sortir du texte. Moi, c'est une démarche qui me gêne un peu, quoi. Ça me... Et donc, le livre commençait, la première phrase du livre, venue du poème, « Guéclin ». Guéclin, la première fois que je t'ai vu, la mousse, et il parle des vagues, et il enlève Guéclin, qui était le nom de la propriété, et à la place, il met Christine, c'est-à-dire Marie. D'abord, c'est beaucoup moins beau que Guéclin. C'est l'étonnant, moi, je dis juste à Léo ce que je pense. Je lui dis, c'est dommage d'enlever ça, parce que...
Et puis c'est le titre, en plus, Guéclin. C'est le titre de...
Guéclin,
les chants de la fureur.
Non, mais après, c'était fini, c'était La mémoire et la mer. Il n'y avait plus de Guéclin.
D'accord, ouais. Enfin, il y a une... Il y a une justification. Enfin,
Léo fait comme il l'entend, il change. C'est l'auteur. Hein. J'ai rien à dire, même si je tique par moments, parce que je trouve qu'il y a des. Comme il essayait de laisser le texte cohérent, il y a certains changements. D'ailleurs, que tous les noms propres, il y avait beaucoup de noms propres dans Guéclin. Il y avait Mazet qui allait chercher le carbure, il y avait un certain nombre de noms propres avec lesquels Léo était fâché. Donc, il les vire et il les remplace par autre chose. Moi, je trouvais que ça déséquilibrait, mais peu importe. Mais en tout cas, j'ai fait part de mes observations à Léo. Et ça ne lui a pas fait plaisir du tout. Je me mêlais d'une chose qui... Enfin, c'est pas grave. Léo me donne le texte.
Corrigé,
mais juste une exigence, et qui était bien, c'était que les caractères choisis pour le texte soient du Garamond, qui est un très joli, très classique, mais c'est très beau. Donc, on écrit en Garamond. Et puis Léo me dit, mais vous, quelle promotion vous allez avoir pour ce livre, comment vous allez le mettre en route? C'est un premier livre, il faut que vous ayez les... Et Léo, alors très modeste, Léo dit, mon nom, ça suffit pas, il faut trouver autre chose. Et ça, c'était le côté... Et Léo me dit, on pourrait faire une belle préface par un grand auteur que je connais bien et qui expliquerait le lien entre tes photos et le texte, en préface. Et si on prend un grand nom, ça rajoute pour... Et Léo prend rendez-vous, revient à Paris et prend rendez-vous et on va voir Paul Guimard. Et Paul Guimard est enthousiasmé par les photos, par le... Et Guimard a écrit une préface, superbe d'ailleurs. Pendant ce temps-là, la photogravure continue d'avancer. Au dernier voyage de la photogravure, ça nous amène à fin août.
De quelle année, rappelle-moi ?
Si je te dis que je sais, 70, 16 ou 17.
D'accord.
Il faudrait que je regarde l'achevé d'imprimer. Mmh. Je ne sais plus. C'est une période tellement perturbée. On va en Suisse finaliser les photogravures et déclencher l'impression. Et à ce moment-là, Henri Berger demande au patron de la boîte quand est-ce qu'on commence à imprimer. Et le gars lui dit, mais on n'imprime pas. Vous m'avez jamais passé commande d'une impression. Vous m'avez passé commande d'une photogravure. Mais vous m'avez jamais dit que nous devions imprimer le livre. Pour moi, je vous ai des photogravures et vous aviez un imprimeur quelque part. Et je n'ai pas de place avant 8 mois pour imprimer. On avait déjà arrêté une date dans une galerie à Paris pour l'exposition. On avait réservé les Fnac de province pour aller présenter le bidule. Et le mec, il nous dit qu'il ne peut pas imprimer le livre. J'ai été fou de rage. Je dis, Henri, mais t'es complètement fou. Ah ben oui, non, j'ai pas pensé. Et puis de toute façon, c'est trop cher. Ils sont trop chers, me dit-il. Je dis, mais là, faut pas prendre le projet. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu es en train de faire ? Oui, je vais trouver un très bon imprimeur, ne t'inquiète pas, je trouverai un très bon imprimeur. Mais on doit sortir, le bouquin devait sortir début octobre. Et si je ne le sors pas en octobre, financièrement, en ayant payé la photogravure, en ayant retenu la galerie, je m'effondre. Le livre doit sortir. Et je dis, mais je ne vois pas comment, en 2 mois, on va trouver un imprimeur. C'est pas ton problème, ça c'est le mien. Je m'en occupe. Moi, j'avais fait un montage, j'avais fait un collage avec les épreuves de photogravure. Je voulais que Léo voie le livre. Alors, c'était épais comme ça. Quand tu colles des photogravures sur un papier, ça fait un gros truc. Je voulais montrer à Léo le livre avec le texte de la préface que lui n'avait pas vu, l'ordre des images et les hors-textes que je mettais en face des images. Léo me donne rendez-vous à Liège. Il venait justement à Liège. Donc rendez-vous à Liège chez Hubert Grotteclasse, photographe de Léo avant moi, qui était un type formidable d'ailleurs, Grotteclasse. Je me prends une chambre d'hôtel à Liège et je dis... On était convenu que Henri Verger, l'éditeur, venait nous rejoindre le soir, après le concert de Léo, quand j'allais montrer les épreuves de photogravure. J'étais avec... Marsan était avec moi, parce que Marsan faisait le son pour Léo, qui avait lui aussi... qui avait un gala à Liège. C'est pour cette raison que le rendez-vous était à Liège, c'est que Léo avait un gala avec l'orchestre à Liège. Quand j'arrive à Liège, on va en voiture avec Richard Marsan, depuis Paris. J'appelle Léo chez Grotteclasse, je dis à Léo, à quelle heure tu veux qu'on se voit ? Voilà, je suis là pour te montrer le bouquin, et Léo me dit, je veux pas le voir. Je dis, mais Léo, c'est important, il faut que tu... Non, non, c'est ton livre, c'est pas le mien. Je veux pas voir. Je dis, mais enfin, Léo, la couverture, c'est quand même Léo Ferré, Patrick Ullmann. Non, 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 c'est ton affaire. C'est pas la mienne. N'insiste pas, je veux pas voir. C'est un, pour moi un choc. J'appelle Henri Berger, je lui dis, écoute, tu viens pas parce que Léo veut pas voir la maquette du livre. Ça sert à rien que tu viennes. Henri Berger me dit, bon, ben, je viens pas, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Bon. Donc je ne vois pas Léo. On va à son concert. On assiste au concert. Je vais frapper à la porte de la loge de Léo, qui ne veut pas me voir. Je comprends rien. Et je dis à Léo, bon, mais moi je rentre à Paris, je reste pas, j'ai pas de raison de rester ici, je m'en vais à travers la porte, tu vois. Je veux pas que tu partes.
Bon. Je veux pas que tu rentres, mais je veux pas que tu partes.
Voilà. Alors j'assiste au concert, dans un état épouvantable, et il y a un moment, je tiens plus, je me mets à chialer. Marie était là, vient vers moi et me fait « Allons Patrick, c'est rien, ça va s'arranger. Il est comme ça, Léo, c'est rien, ça s'arrangera. » Bon, le concert fini, grand repas dans je ne sais quel restaurant, et on me met sur une petite table, pas à la table avec Léo. Je comprends pas ce qui se passe, je comprends rien du tout. Enfin bon, ça se passe comme ça, et je dis à Léo « Écoute, je comprends, c'est mon livre, c'est pas le tien. » Quand même, je parle avec Léo. Je dis, mais c'est plus mon livre non plus, quoi. Parce que ça m'intéresse pas. Le seul truc qui m'a intéressé dans cette histoire, c'est de faire quelque chose avec toi. Sans toi, ça n'a aucune raison d'être, ce livre-là. Et Léo me dit, mais déconne pas, c'est une belle chose, il faut le faire. Et tiens, d'ailleurs, je t'écris une lettre pour te dire que je te donne le texte. Et là, au restaurant, il demande un papier et il m'écrit une lettre. « Je sous-signais Léo Ferré, artiste de variété, demeurant Castellina in Chianti. Donne mon texte à Patrick Ullmann pour qu'il l'édite ou le fasse éditer par qui bon lui semble, sans que je puisse jamais revenir sur cet accord. » Et pendant qu'il écrit ça, une fois qu'il a fini, il me dit « Et moi, je chiale. » Et il me dit, pleure pas, mais c'est ton livre, c'est pas le mien. Bon. Et le lendemain, je rentre à Paris. Henri Berger, triomphant, me dit, on est sauvé, tout va bien, j'ai trouvé un imprimeur à Tours. Moi, je sais pas, je connais pas. Hein. Et en plus, j'étais... Enfin, quasi, c'était plus mon projet, quoi.
Ouais, il y avait une petite distance, là.
Voilà, c'était... Ouais. Bon, j'avais pas décidé de l'arrêter, le livre. Mais c'était plus mon affaire. On va à Tours, chez les imprimeurs. Ils imprimaient le bottin et des micelles. Leur spécialité. Ouais. Pas de la photo d'art. Et les mecs, en voyant les photogravures, et là je suis là, ils disent, c'est un travail très délicat. On peut le faire, mais ça va demander du temps. Et ça dépasse de loin le budget auquel on s'attendait, parce qu'on est dans un cas de couleur très, très particulier, quoi. En plus, il faut définir un papier, définir... Et Henri leur dit, ah mais le papier, il est déjà acheté. Et alors j'apprends que Henri Berger, qui était un fou quand même, avait commandé le papier, très beau papier là, au demeurant. Mais sans avoir demandé aux Suisses, il avait fait livrer le papier à l'imprimerie en Suisse. Enfin, tu vois, une histoire de fou. Et donc Henri dit, ah mais j'ai déjà le papier, c'est de l'argent marie, telle qualité. Il est en rouleau, en Suisse. On va faire venir les rouleaux. Et là, l'imprimeur lui dit, attendez, nous on passe pas les rouleaux. On passe des pages à plat, on passe pas en rouleau. Alors vous allez faire revenir le papier, très bien, et il faut qu'on le coupe. Pour en faire des rames de papier. Mais toute cette opération, faire revenir le papier, couper les rames, il faut qu'on laisse reposer le papier au moins un mois avant de l'utiliser. Sinon, comme on est à un passage de 16 couleurs, on ne va pas repérer à chaque passage. Le papier doit impérativement reposer. Et après seulement, on pourra imprimer. Et Henri Pergé dit non.
Je suis pressé, je veux ma date d'octobre.
Ça doit sortir à telle date, je m'en fous, allez-y quand même. Je dis à Henri, on va à la catastrophe. Et là, il me dit, ta gueule, je paye.
Oui, d'accord.
Je lui dis, alors Henri, on ne sort pas le livre. Il me dit, si, je sors quand même. Je fais. Et je te préviens que je désavoue le livre, que je ne suis pas auteur, et je t'attaque pour contrefaçon. Ce n'est pas mon livre. Tu n'oseras jamais, tu me foutrais trop dans la merde, tu ne feras jamais une chose pareille. Et il a sorti. Et le jour de sa sortie, mon frère était avocat, mon frère qui est mort maintenant, on a fait un référé d'urgence et on a fait interdire le livre. Qui était une vraie merde.
Tu t'en as vu un exemplaire, ouais ?
Ah oui, bien sûr. Ils ont les dernières impressions de couleur, ils étaient obligés de faire sécher les pages au four.
Oh.
Ce qui avait fait une patinoire sur le papier. Alors ça ne repérait pas. Tu sais, t'avais des images dédoublées, comme les images qu'on regarde en relief avec des lunettes, tu sais. C'était comme ça, avec des couleurs baveuses. Et quand tu tournais les pages, l'encre te venait sur les mains. Et il décide de vendre ça quand même, pour se sortir de sa merde. Et donc, y a eu le procès qu'il y a eu, il y a eu le référé qu'il y a eu, et le mec, il a tout perdu. Évidemment qu'il a tout perdu. Je ne suis pas coupable.
Ben non, bien sûr, non. Tu as défendu ton travail, quoi.
Et le mec qui était le berger, grand ami de Pia Colombo, et Pia Colombo, grande copine de Léo, et moi qui malencontreusement était tombé amoureux de l'attaché de presse du livre, qui fait que je divorçais, et que Marie et Léo adoraient mon ex-femme, tout ça est devenu un tas de boue, où j'étais un cinglé, où je mettais un éditeur dans la ruine, où j'étais une véritable saloperie. La dernière discussion... Et Léo me dit, mais tu te prends pour quoi ? Est-ce qu'on fait un livre avec 126 couleurs, ou je ne sais pas quoi ? Je dis, Léo, mais c'est pas moi qui ai décidé du nombre de couleurs, c'est leur métier, c'est les imprimeurs, moi, voilà. On n'a pas idée... Tu es photographe ? Je dis, oui, mais tu sais, un ton photographe. Et je dis, écoute, Léo, toi, t'es chanteur. Et tu peux plus chanter à moins de 120 musiciens. Parce que Léo avait décidé qu'il ne chanterait plus s'il n'avait plus un grand orchestre dans cette période-là. Je dis, alors, moi, je peux mettre 128 couleurs si tu peux pas chanter sans 120 musiciens. Ça, c'est un truc qu'il aurait fallu jamais que je dise, quoi.
Ouais.
Ça a été. Il n'a pas admis ça. J'ai pas revu. Il m'a engueulé au téléphone, je ne l'ai pas revu.
C'était au téléphone, oui.
Oui. C'est à la suite de ça que j'étais bien obligé d'assumer mes présentations de livres en province. Et c'est là où je parle la dernière fois à Léo, ouais, en disant Léo, il faut qu'on se voit. Il faut qu'on parle. Ça ne peut pas rester comme ça. Je ne suis pas coupable. Et c'est là que Léo me dit...
Tu réponds ce qui t'a...
On ne se verra plus, je ne veux plus te voir. Alors j'ai appris après, par Mathieu, par mon fils, qui s'appelle... Là aussi, coïncidence, mon fils s'appelle Mathieu. Il a deux ans de plus que Mathieu Ferré, il s'appelle Mathieu. Et j'apprends qu'en fait, je me suis trouvé au milieu d'un maelstrom merdique de gens, dont Pia Colombo, dont le mari de Pia Colombo, dont tout cet engrenage-là, et mon ex-femme, qui est venue pleurer chez Léo, chez Marie, que j'étais un salaud qu'il abandonnait avec ses enfants. Enfin, et Léo a fait une salade, et j'étais un salaud qui de toute façon, valait rien, et c'était bien fait pour ma gueule.
Oui, d'accord.
Voilà.
Donc oui, du non-dit et puis de la parole déformée et puis des influences.
Et c'est vrai, ça, j'avais déjà remarqué que beaucoup de gens étaient, beaucoup de amis, entre guillemets, étaient très jaloux de la relation qu'on avait avec Léo. C'était, pour plein, c'était à peu près insupportable. Je pense entre autres à Pia Colombo, parce que Léo était très bien avec Pia. Pia a eu un cancer, une tumeur qui lui a pas bouffé la musique, mais presque, ça a été horrible. Et Léo a été très bien avec Pia. Mais Pia m'a beaucoup sali. C'était la meilleure amie de mon ex. Ouais. Alors tout ça a magouillé, a grenouillé. Mmh. Et c'est la seule fois que j'ai vu Léo prendre fait et cause pour un éditeur. Tous les éditeurs étaient toujours des salauds qui n'étaient là que pour vous exploiter et prendre votre fric.
Mmh. Visons l'éditeur.
Alors que les auteurs étaient les pauvres gens. Là, pour la première fois, j'ai vu un éditeur qui était formidable. Voilà. Après, avec Henri Berger, les relations ont été effectivement très dures. Et là, il s'est répandu encore plus. Lui, il allait à Castellina tout le temps pleurer.
Oui, d'accord.
J'étais le pourri. J'étais. Mmh. Et puis, donc, j'ai plus revu Henri Berger. Jamais. Et bien des années après, je dirais il y a maintenant 8 ou 10 ans, j'apprends que Henri Berger a le sida. Comme moi, entre-temps, j'avais découvert mon homosexualité. Je ne sais pas pourquoi. Je me suis dit, il faut que j'aille voir Henri et qu'on parle. Parce que c'est une histoire trop sale, trop laide, trop... Et je suis allé voir Henri Berger, qui s'est montré charmant, adorable. Et qui m'a fait du chagrin, comme te fait chagrin un grand malade, quoi. Tu restes pas insensible à ça, quoi. Et donc, j'ai rétabli des relations avec Henri. Et puis, j'ai cherché à... Qu'est-ce qui pourrait lui faire plaisir? Alors, je lui ai donné des tas de photos, des tas de choses. Et puis, je l'ai invité en vacances. Voilà. Finalement, j'étais un peu coupable, moi aussi, quoi. Je ne peux pas comment dire. Voilà, c'est arrivé comme ça.
Tant que nous écrirons nos noms sur les arbres malades de l'automne, les oiseaux pourront chanter, nous pourrons nous aimer. Je suis celui que tu attends, je suis celui qui t'aime tant depuis longtemps. Arriver de m'oublier, tu sais que moi je n'oublierai jamais. Lorsque nos noms seront fanés sur les arbres malades de l'automne, les oiseaux pourront partir. Nous pourrons en mourir. J'étais celui que tu attends, j'étais celui qui t'aimait tant depuis longtemps. Oh, si longtemps. Il t'arrivera de m'oublier, tu sais que moi je n'oublierai jamais, car notre amour est plus fort que l'amour.
Patrick, merci beaucoup. On a fait grandement le tour de la question et je crois que cette fois-ci, on a vraiment pris le temps qui nous manquait au mois de juin dernier. Et j'en suis vraiment ravi parce que c'était d'une richesse incroyable, de plein d'anecdotes et surtout, ce qui me semble vraiment important, beaucoup de sentiments.
Écoute, je crois que j'étais un peu bavard et un peu décousu.
Ah, décousu, non, pas mais... forcément. Bavard, tant mieux, tant mieux, tant mieux.
Je fais beaucoup de digressions, je sais bien, mais... voilà, je suis heureux de parler de ça, quoi. Voilà.
Ça se sent.
C'était un moment vivant.
Je suis heureux de t'avoir reçu et d'avoir entendu tout ce que tu as bien voulu nous confier aux auditeurs et auditrices, et puis à moi-même. Vraiment, merci. Tu reviens quand tu veux, bien évidemment.
On revient demain matin.
Allons.
Allez, à tout à l'heure.
Merci beaucoup Patrick, je t'embrasse et
merci, je t'embrasse.
À très bientôt.
Quand tu rentres chez toi, je parle à chacun de vous, quand tu rentres chez toi, tu es seul. J'ai dit tout à l'heure que tu es tout seul, tu meurs tout seul. C'est pas une connerie, c'est vrai. Hein. Bon. Quand tu rentres chez toi, ne prends pas des habitudes. Parce que, essaye, là, avant de faire la révolution dans la rue, il faut la faire dans la tête. C'est pour ça qu'on la fait pas dans la rue. Hein? Et n'oublie pas ce que je vais te dire. Tous les jours, sans t'arrêter, au-dedans de toi, en parlant à n'importe qui, même à un mec, une fille avec qui tu dois prendre des circonlocutions particulières, de remplir une phraséologie à la con, parce qu'ils ont des machins, tout ça, etc. Ou des petits machins, hein? Des petits rubans, là, hein? Bon. Dis-toi bien une chose, mais dis-le, dis-toi-le toujours, toi tout seul. Pas tout seul, sans parler à ta femme, sans tes gosses, tout ça. Ou apprends leur à le dire aussi. Dis-toi bien que le pouvoir, d'où qu'il vienne, c'est vraiment de la merde.
Yes, prenez soin de vous, prenez soin d'elle. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao.
C'est la fin du Ferré Club. À la semaine prochaine.